Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous arrivons à la fin de notre étude, de notre série, c'est-à-dire la deuxième série, il faut bien le dire, deuxième série de l'Évangile de Saint-Marc. Et là, nous avons Jésus devant Pilate. Nous arrivons donc à la fin de cette deuxième série de l'Évangile de Saint-Marc. Jésus devant Pilate, chapitre 15, versets 1 à 15. Dès le matin, en hâte, les chefs des prêtres ont tenu conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Puis après avoir fait ligoter Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?»« Tu le dis, lui répondit Jésus. » Les chefs des prêtres l'accablaient d'accusations. Pilate alors l'interrogea de nouveau. « Tu ne réponds rien. Vois tout ce dont ils t'accusent. » Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui plongea Pilate dans l'étonnement. À chaque fête, il leur accordait la libération d'un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Or, un certain Barabbas se trouvait détenu, avait des complices pour un meurtre commis dans une sédition. La foule qui était montée se mit à réclamer ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate, prenant la parole, leur dit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait compte, en effet, que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais ceux-ci ameutèrent la foule pour qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Reprenant la parole, Pilate leur dit « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?»« Crucifie-le » crièrent-ils de nouveau. « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» leur dit Pilate. « Crucifie-le » n'en crièrent-ils que plus fort que jamais. Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Voyez-vous, du palais du grand prêtre, Jésus ligoté comme un malfaiteur et amené jusqu'à la résidence jérusalémite, vraisemblablement la tour Antonia, à l'angle nord-ouest du temple du procureur romain Ponce Pilate. Seul, en effet, le représentant des Césars pouvait faire exécuter un condamné à la peine capitale. Il fallait donc obtenir de Pilate qu'il ratifiait sur le champ la sentence du Sanhédrin en le persuadant que Jésus était un ambitieux et un séditieux aux visées politiques dangereuses, c'est-à-dire un ennemi de l'empereur. Ne venait-il pas, quelques jours auparavant, de se faire acclamer par le peuple comme le successeur de David? Au cours du bref conciliabule qui tiennent au petit jour les membres du Sanhédrin, par conséquent, ils s'entendent pour mettre au point le chef d'accusation qui doit entraîner l'assentiment de Pilate. Celui-ci, rapidement informé, s'adresse à l'accusé. « Es-tu le roi des Juifs ? Tu le dis, ou c'est toi-même qui le dis ?» répond Jésus. selon saint Jean, chapitre 18, verset 36. Il aurait ajouté que son royaume n'était pas de ce monde. Au cours de cet interrogatoire, dont Marc ne relate que peu de choses, Pilate est visiblement impressionné par le calme, la complète maîtrise de soi et la singulière dignité de l'accusé. En cela, il se montre supérieur aux chefs religieux des Juifs. Il perçoit tout naturellement quelque chose de l'ascendant qu'exerce Jésus. La moindre de ses paroles impressionne, et peut-être plus encore ses silences. Pilate essaie donc de le sauver. Pourquoi ne le ferait-il pas bénéficier de la coutume que veut qu'à l'occasion de la Pâque, un prisonnier soit relâché? Il propose donc la chose au peuple. Mais celui-ci, fanatisé par ses chefs, se mit à clamer « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Et c'est l'élargissement d'un dangereux chef de bande, Barabbas, qu'il demande. Opportuniste, on peut dire lâche, par tempérament, Pilate veut avant tout éviter des ennuis en haut lieu. Pour n'en pas avoir, alors il livre Jésus à ses accusateurs. La coutume romaine voulait que le supplice des crucifiés commençât par la flagellation. Elle devait les affaiblir et abréger leur agonie. Ce premier supplice était d'ailleurs si éprouvant par lui-même que certains des condamnés y succombaient. Jésus le subit sans protester ni défaillir. Dans tout cela, Jésus me parle de son ineffable royauté. Comme tu es grand dans ce cadre atroce, grand d'une grandeur que rien ne saurait ternir ni entamer. Et comme ils sont petits, pitoyables, ceux qui te traitent de la sorte. Et je m'étonne d'un aveuglement pareil, d'un pareil fanatisme et d'une pareille cruauté de la part des prêtres et du peuple. Oui, d'une pareille lâcheté, on peut aussi dire, de la part de celui qui représente la puissance, le droit et la fierté de Rome. Mais tout cela est humain, oui, tristement humain. Sans doute au reste, fallait-il cela pour dégager les derniers traits de ta royauté, de ton incomparable grandeur. Elle ne doit rien au monde, elle doit tout à Dieu. Reçois donc, ô Jésus, l'hommage de mon infinie gratitude et d'un loyalisme que je veux inconditionnel. Prions. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la lampe qui baisse. Il ne se découragera pas et ne se relâchera pas. Qu'il n'ait établi la justice sur la terre. Au chapitre 15, versets 16 à 20, nous avons les soldats qui s'amusent du roi des Juifs. Les soldats amenèrent donc Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils convoquèrent toute la cohorte, c'est-à-dire les 600 hommes de la garnison. Ils le revêtirent de pourpre et le ceignirent d'une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, ô roi des Juifs !» Ils le frappaient à la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui retirèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'amenèrent pour le crucifier. Oui, c'est tout de même assez terrible tout cela. J'assiste donc, attristé, à ce divertissement dérisoire et navrant, organisé sans malice excessive, semble-t-il, par une soldatesque grossière, mais inconsciente, presque, on peut dire, irresponsable. On y décèle pas, en effet, le mépris haineux et brutal, ou le fanatisme rageur dont viennent de faire preuve quelques membres du Sanhédrin dans une scène similaire, chapitre 14, verset 65. Ce sont plutôt de grands enfants irréfléchis et sans cœur qui profitent d'une bonne occasion pour se divertir. Et tout cela, ta royauté, ô Jésus, s'impose maintenant à moi avec plus de force que jamais. Ces épines dont on te couronne, cette pourpre dérisoire dont on t'affuble, ce roseau qu'on te met dans la main en guise de sceptre, selon Matthieu, chapitre 27, verset 29, et dont on te frappe ensuite, et puis, de ta part, cette muette et totale acceptation, cela surtout, tout dans cette scène pitoyable et sublime, me dit que tu es bien, non seulement le roi des Juifs, mais le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui que le Père exaltera bientôt au point de lui conférer le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'à ton nom, Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue te proclame Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Prions. Tu es digne, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as été immolé et qui as racheté par ton sang pour Dieu le Père, des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute race et de toute nation, afin d'en faire un royaume de prêtres pour qu'ils règnent sur la terre et de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Oui, qu'au Tout-Puissant, comme à toi, Seigneur Jésus-Christ, toi l'agneau immolé, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons maintenant au crucifiement et à la mort de Jésus. Chapitre 15, versets 21 à 41. Ils réquisitionnèrent donc pour porter sa croix un passant qui revenait des champs. C'était un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Le fait que saint Marc les nomme prouve qu'ils étaient connus. Ils faisaient donc partie de l'Église, vraisemblablement de la communauté romaine. Saint Paul, en effet, dans son épître aux Romains, chapitre 16, verset 13, fait saluer un certain Rufus et sa mère au moment où saint Paul écrit. Et la honte, car c'en est bien une, infligée à Simon, devait donc produire des fruits de vie pour lui et ainsi que pour les siens. Puis ils conduisirent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, appelé également le calvaire. Ils lui présentèrent du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le crucifièrent alors et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort de la part de chacun. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'écriteau indiquant le motif de sa condamnation portait « le roi des Juifs ». Avec lui, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi s'accomplit cette parole de l'Écriture sainte, « il a été mis au rang des malfaiteurs ». Les passants l'injuriaient en hochant la tête et en disant « et toi, qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi donc toi-même en descendant de la croix ». De même aussi les chefs des prêtres avec les scribes plaisantaient entre eux et disaient « il en a sauvé d'autres, mais il ne peut se sauver lui-même ». Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand vint la sixième heure, l'obscurité se fit sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure. À la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous avez compris, il a crié d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », et vous l'avez compris, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent en l'entendant, « voilà qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut imbiber une éponge de vinaigre et la fixant à un roseau, lui présenta tout cela à boire en disant, « laissez, voyons si maintenant Élie va venir le descendre. » Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Et le voile du temple, à ce moment précis, se déchira en deux, du haut en bas. Le centurion qui était en faction devant la croix, voyant qu'il avait ainsi expiré, s'écria, « En vérité, cet homme était bel et bien fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé. Ils étaient là, qui l'avaient suivi et servi quand il était en Galilée, et plusieurs autres encore qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Tout commentaire semble ici déplacé, impuissant, en tout cas à dire ce qui ne pourrait jamais être dit. Je contemple donc, dans l'adoration silencieuse, celui qui donne ainsi sa vie pour moi, pour nous. Oui, le Fils et le Frère, pour qu'à notre tour, nous vivions comme il a vécu, avec le même esprit, en Fils et en Fille du Père, le Dieu qui est amour. J'entrevois quelque chose du grand mystère de l'universelle solidarité qui nous unit en Dieu et de laquelle et dans laquelle nous devons vivre. Je comprends que dans la personne du Christ Jésus, nous avons enfin un frère et que Dieu a enfin un fils. Que c'est tout à fait vrai, plus vrai que tout ce qui voudrait nous empêcher de comprendre et d'accepter cette incroyable réalité pour que nous en fassions un nouveau point de départ. Oui, afin que pour finir, nous en vivions et que nous accédions à la vie dans son ensemble et dans son essence, la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout cela par grâce, oui, par pure grâce, puisque tout doit être reçu, mais reçu dans un mouvement nouveau, un mouvement de l'âme qui épouse la grâce divine. Et je comprends maintenant que pour qu'il pût en être ainsi, il fallait que le frère acceptât d'être tout à fait fils, qu'il acceptât lui l'unique, cette totale identification avec les frères et les sœurs jusqu'au dernier de tous et au perdu. Comment donc m'étonner qu'une société qui s'était constituée en marge du vrai Dieu, le Père qui ne peut voir dans tous les hommes que des fils, voulut se débarrasser de Jésus comme d'un corps étranger, d'une pierre d'achoppement et d'un danger public. Et plus particulièrement, si cette société se réclamait malgré tout du vrai Dieu, mais du vrai Dieu ramené à l'image de l'homme, de sa raison et de sa morale, enfermé dans le donjon de ses premières révélations. Et puis, ne faut-il pas le dire, puisqu'il en est bien ainsi de par la volonté du Très-Haut, Jésus purifie l'homme, il le purifie tout entier de tout ce qui peut fausser ou ternir une partie quelconque de son corps, de son âme ou de son esprit. Il offre donc à la mort, sur une croix d'infamie, un corps nu comme celui de la naissance. Il libère et réhabilite ainsi l'homme sur un point particulièrement important pour assurer sa santé physique et morale en purifiant et en redressant son regard. En voyant mon Seigneur, oui, le Seigneur du monde, mourir ainsi, je comprends qu'il fallait cela pour que nous retrouvions tout à fait, on peut dire, le respect de notre chair, que nous cessions de la mépriser ou au contraire de l'idolâtrer et d'en faire peut-être une occasion de dérèglement et de luxure. Devant la croix, je sens comme la main du Dieu créateur et Père qui touche mon regard pour en faire un regard innocent et neuf, vrai, juste et droit. Et je trouve là une âme d'enfant et une nouvelle lumière intérieure, une lumière qui change ma vision des hommes et des choses. J'ai le dégoût de toute déviation malsaine, de tout ce qui avilit ou salit l'être humain. Et le goût impérieux du juste, du vrai, du propre, du beau, du bon et du saint. Donc, le dégoût du péché et le goût de la sainteté. Dans la mesure où je demeure dans le saint et la justice, et où il peut demeurer maintenant en moi. Chers amis, au chapitre 15, versets 42 à 47, nous avons la descente de la croix et la mise au tombeau. J'ai dit, Saint Marc, chapitre 15, versets 42 à 47. Déjà le soir était venu, et comme c'était la préparation du sabbat, c'est-à-dire la veille du sabbat, voici qu'arriva Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, qui lui aussi attendait le royaume de Dieu. Il a eu la hardiesse d'aller jusqu'à Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate, étonné qu'il fût déjà mort, fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il accorda le corps à Joseph. Celui-ci, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui avait été taillé dans le roc. Puis il roula une pierre pour en fermer l'entrée. Or Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. Chers amis, selon la loi juive, le corps des suppliciés ne pouvait rester en croix pendant le sabbat. C'est pourquoi, peu avant le coucher du soleil, à la requête des Juifs, Pilate fait achever les deux brigands crucifiés avec Jésus et qui agonisaient toujours. Quant à Jésus lui-même, il avait cessé de vivre. Un soldat lui perce tout de même le côté d'un coup de lance, selon saint Jean, chapitre 19, versets 31 à 37. Le corps du maître ira-t-il maintenant rejoindre les deux autres au charnier commun? Non, 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 car il faut que ce corps qu'on a voulu déshonorer à jamais soit bien au contraire à jamais glorifié. L'esprit pousse donc un membre éminent du Sanhédrin, c'est-à-dire Joseph d'Arimathée, homme non seulement riche et considéré, mais bon et juste, qui ne s'était rallié ni à la sentence, ni aux démarches des autres, selon saint Luc, chapitre 23, verset 51, et qui était un disciple secret de Jésus, tout comme le pharisien Nicodème son ami, qui s'associe à son geste, selon saint Jean, chapitre 19, versets 38 et 39. L'Esprit Saint, disons-nous, pousse donc Joseph d'Arimathée à se rendre auprès de Pilate pour lui réclamer le corps de Jésus, afin de lui donner une sépulture honorable dans un tombeau vierge encore, qu'il avait fait tailler pour lui-même dans un jardin tout près du calvaire, selon saint Matthieu, chapitre 27, verset 60, et les passages parallèles de saint Luc et de saint Jean. Sachons-nous inclinés, chers amis, bien bas devant cette courageuse initiative. Il y fallait, on peut dire de la part de ces notables, une estime singulière et même une affection profonde pour celui qu'avec des malfaiteurs on avait cru pouvoir jeter au rebut et vouer à l'infamie. Avec les deux Marie qui se tiennent à distance, nous assistons à la descente du pauvre corps sanglant de la croix et à sa mise au tombeau dans un linceul neuf. Après avoir pieusement accompli ce dernier devoir, Joseph et Nicodème réunissent leurs forces pour rouler en place l'énorme meule qui ferme le tombeau. Et la nuit sainte du sabbat, le plus solennel de l'année juive, le sabbat pascal, tombe sur le drame qui va désormais dominer toute l'histoire du genre humain. Nous pouvons prier quelques mots maintenant. Ta lumière, ô Jésus, lumière du monde, semble un moment éteinte à jamais. Bientôt pourtant, elle brillera d'un nouvel éclat, et pas seulement pour notre monde terrestre, mais aussi pour les régions infernales. Grâce te soit à jamais rendue, Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons maintenant au tombeau vide, chapitre 16, versets 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, notre dimanche, comme le soleil se levait, elles arrivèrent au tombeau. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme le tombeau ?» Comme elles levaient les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée. Or, elle était très grande et lourde. Pénétrant ensuite dans le tombeau, elles aperçurent, assis à droite, un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent prises de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, c'est Jésus de Nazareth, le crucifié, que vous cherchez. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici la place où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples, à Pierre en particulier, qu'il vous précède en Galilée, et là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent donc et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient saisies de tremblement et d'effroi, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Chers amis, pourquoi cette peur panique chez ces trois femmes? N'auraient-elles pas dû se réjouir, tout en étant saisies d'une certaine crainte, comme le dit saint Matthieu au chapitre 28, verset 8. Pour les comprendre, eh bien, il faut essayer de se mettre à leur place. Elles allaient donc au tombeau pour embaumer un corps. Or, elles le trouvent ouvert et vide. Bien plus, voilà qu'un jeune homme en blanc, un ange, ou même deux, selon les autres évangélistes, sont assis du côté droit. Il s'adresse donc à elles et leur dit que celui qu'elles cherchent n'est plus, oui, il n'est plus là, qu'il est ressuscité et que c'est en Galilée que les disciples doivent le rendre pour le voir. C'est là qu'ils doivent donc se rendre pour pouvoir le revoir et qu'elles aillent donc le leur dire. Voyez-vous, tout cela est non seulement totalement inattendu, invraisemblable, mais aussi bien déconcertant pour les humains. Elles se sentent en présence de forces bienfaisantes, certes, puisqu'elles ont fait disparaître un cadavre et triomphé la vie là où avait passé la mort. Mais combien redoutable et troublante tout cela pour de pauvres femmes comme elles. Le corps du maître ne les eût pas effrayées. Elles auraient encore pleuré, sans doute, en accomplissant leur pieux devoir. Elles se seraient inclinées devant les inéluctables nécessités d'une destinée tragique. Mais voilà que, sans y être le moins du monde préparé, surtout pas par leur foi, elles sont placées en face de manifestations surnaturelles. Celui qui leur parle n'est pas un jeune homme ordinaire comme les autres. Il appartient manifestement à un autre monde, normalement invisible, et avec lequel les communications sont interdites. Et cette résurrection de Jésus qu'il leur apprend implique l'intervention de puissances mystérieuses que normalement encore les humains ne doivent pas connaître. Décidément, c'en est trop pour elles. Au lieu de se réjouir et d'annoncer la bonne nouvelle aux disciples désespérés, elles ont peur et elles se sauvent toute tremblante. Est-il bien sûr, au demeurant, que la nouvelle soit exacte? Et si effectivement Jésus est vraiment ressuscité et vivant, comment imaginer le voir encore? Serait-ce même licite et sans danger? Les vivants doivent-ils avoir des contacts avec les morts? Ils appartiennent à des mondes différents, séparés. La loi est très formelle sur ce point-là. Non, elles ne sauraient faire ce qui leur est demandé. Elles ont bien trop peur, tout simplement. Pour qu'ils puissent en être autrement, il faudra qu'un grand rétablissement s'opère en elle. Il faudra l'intervention du ressuscité lui-même qui leur parlera et les rassurera, selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 9 à 10, et saint Jean, chapitre 20, versets 16 à 18. Si les quatre évangélistes témoignent unanimement et avec force de la résurrection et des apparitions du crucifié, Leurs témoignages sont cependant loin d'être concordants quant aux modalités que revêtent ces événements inattendus. C'est au reste assez peu surprenant quand on songe à leur caractère proprement inouï et au bouleversement des esprits qui en fut la conséquence. Mais sans doute faut-il voir dans l'authentique fragment qui ouvre le chapitre 16 de Saint-Marc une notation plus exacte des faits se rapportant au tombeau vide que celle des autres évangélistes. Chers amis, prions un instant. Je te rends grâce très particulièrement, Seigneur Jésus-Christ, pour le tombeau vide qu'ont trouvé celles qui cherchaient un cadavre parce que tu avais expiré sur la croix et qu'elles avaient vu ta dépouille mortelle déposée dans ce sépulcre. Tu veux ainsi qu'en passe la mort, détourner nos yeux de ce qui est terrestre pour les élever vers ce qui est céleste, même si la terre recueille pour la garder la dépouille que nous lui confions. Apprends-nous à ne pas chercher parmi les morts ceux qui sont vivants pour l'éternité. Au nom de ta grande parole, oui, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Merci de ta grande promesse qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. » Au chapitre 16, versets 9 à 20, nous avons l'apparition du ressuscité. Chapitre 16, versets 9 à 20. Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, notre dimanche, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, selon saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18, de laquelle il avait chassé sept démons. Celle-ci alla l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et dans les larmes. Mais eux, quand ils apprirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait bien vu, ne la crurent pas. Saint Luc chapitre 24, versets 9 à 11. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour se rendre à la campagne. Ils revinrent aussi là l'annoncer aux autres, mais là aussi, ils ne les crurent pas non plus. Selon saint Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Enfin, il apparut aux onze eux-mêmes, alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité, et on peut dire aussi leur entêtement. Notez saint Luc chapitre 24, versets 34 à 49, et saint Jean chapitre 20, versets 19 à 29. Parce qu'ils n'avaient pas cru, ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « Allez, maintenant, par tout le monde, prêchez l'évangile à toute créature. » Saint Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Celui qui croira et qui recevra le baptême sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents et ils boiront quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu, selon le psaume 110, verset 1. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la sainte parole par les miracles qui l'accompagnaient. Cette finale tardive, on peut dire tardive à l'évangile de saint Marc, au chapitre 2, on peut dire, non, ça a eu lieu au deuxième siècle. C'est ce que dit saint Marc. Cette finale tardive a eu lieu, donc écrit par saint Marc au deuxième siècle, et elle ne fait, comme nous le disons, dans une note sur le verset 8 de saint Marc, chapitre 16, elle fait que résumer en y ajoutant quelques éléments empruntés à la tradition primitive sur l'activité des apôtres, c'est-à-dire les données essentielles des trois autres évangélistes quant aux apparitions de Jésus après sa résurrection. On a beaucoup discuté sur les divergences, allant parfois jusqu'à la contradiction qu'on trouve d'un évangile à l'autre sur cette question pourtant capitale. Mais au fait, pourquoi tellement de polémiques? Pourquoi on y croit ou l'on n'y croit pas? Si l'on y croit, les divergences sont, on peut dire, loin d'infirmer la valeur des témoignages, les confirment bien au contraire quant à l'essentiel, car elles prouvent jusqu'à l'évidence que les témoins ne se sont en aucune façon concertés, ni les évangélistes eux-mêmes pour harmoniser leur rédaction. Chacun aurait plutôt cherché à compléter ou à corriger les autres s'il en avait eu connaissance. Donc sur le fond d'ailleurs, c'est-à-dire sur la matérialité du fait lui-même, l'accord est absolument complet. Il s'agit toujours, et de toute évidence, non d'hallucination, mais d'apparition bien objective, sensible, même et charnelle, on peut dire, pourrait-on dire, au concernant le Christ ressuscité. Certains détails, oui, certaines modalités de temps et de lieu peuvent différer, c'est vrai, mais cela n'affecte guère le cœur du problème qui est de savoir si Jésus, après sa mort et sa mise au tombeau, est réellement apparu à ses disciples pour les convaincre de sa survie et leur laisser ses dernières instructions. Or cela ne semble pas faire de doute, absolument pas. Une lecture honnête, faite sans idées préconçues, des témoignages évangéliques, tout cela nous montre des hommes et des femmes parfaitement saints d'esprit et même plutôt portés au doute et à l'incrédulité. Ils sont donc d'accord pour affirmer que Jésus leur est bien apparu, qu'il leur a parlé, qu'ils l'ont touché, et même qu'il a mangé avec eux. Voyez-vous, les théologiens et autres analystes qui prétendent que, vu le fait que les quatre évangiles ne concordent pas à 100%, que cela nous permet de douter d'une éventuelle résurrection de Jésus. Pour que je n'oublie pas, je voudrais simplement vous dire, pour ceux qui possèdent Internet, moi je ne le possède pas, vous pouvez trouver sur www.bibleexplique.ch un témoignage extraordinaire qui est donc intitulé Marietta. Marietta, vous trouverez. Et vous pouvez aussi trouver des CD qui expliquent tout concernant le ciel. Mais je vous recommande le témoignage extraordinaire de Marietta. Par ailleurs, si les évangélistes attestent unanimement que Jésus a été à maintes reprises corporellement présent à ceux qui l'avaient connu, ils notent également qu'il s'agit ou disparaît, il surgit tout à coup, et parfois il disparaît d'un moment à l'autre, sans qu'on sache très bien comment cela s'est produit et qu'il n'est pas toujours reconnu par ses familiers les plus intimes. Et parfois même, il se présente et disparaît subitement dans une pièce dont les portes et les fenêtres sont fermées. Comment expliquer tout cela? Très simplement, sans doute et très naturellement, étant donné cela, va sans dire, la personnalité unique de Jésus, prodigieusement en avance spirituellement sur le reste de toute l'humanité. En Dieu son Père, Jésus, après son oblation et sa mort physique sur la croix, accède à la maîtrise absolue de la matière de son corps charnel en particulier, en dispose à son gré et se meut, il peut donc se mouvoir librement dans la quatrième dimension, celle de l'esprit, oui, de l'esprit qui ne connaît plus les limites du temps, de l'espace ou de la matière. Toute puissance m'a été donnée, est-il dit, dans le ciel et sur la terre. Cela, il peut le dire, selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 18. C'est bien entendu spirituellement que Jésus est ressuscité, car il n'y a pas de résurrection définitive en dehors de la résurrection spirituelle. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42. Mais en ranimant son corps matériel, il le résorbe dans un corps spirituel de résurrection, en sorte qu'il n'y a plus qu'un tombeau vide là où le corps du crucifié avait été déposé. Toutefois, pendant les 40 jours qui séparent le matin de Pâques du jour de l'Ascension, Jésus a la faculté de se matérialiser à volonté, le temps voulu est là où c'est nécessaire, en se donnant l'apparence que réclament les circonstances, mais en finissant toujours par se faire reconnaître. Au reste, ce fut de sa part une dernière concession faite à l'incrédulité et à l'opacité spirituelle des disciples que sa mort avait jeté dans la consternation. Ces preuves absolues manifestent de survie glorieuse et de victoire sur toutes les forces adverses était donc indispensable pour les arracher à leur désarroi et à en faire, après l'effusion de l'Esprit-Saint, des témoins absolument résolus et enthousiastes, non seulement du crucifié, mais aussi et surtout du ressuscité et du glorifié après son ascension et sa spiritualisation définitive. Ce n'est, on peut dire, un bulletin de victoire. C'est vraiment un bulletin de victoire que le témoin du Christ doit apporter au monde. Si la foi chrétienne est une mort à tout ce qui fait obstacle à la vie du Père pour l'homme, son enfant, c'est aussi et avant tout le triomphe et la manifestation de cette vie au niveau de l'humanité terrestre. Il doit donc reconnaître que pour toi, Jésus, les 40 jours qui séparent ton ascension de la résurrection furent encore un temps d'attente. Il te fallut donc renoncer dans l'immédiat à la pleine gloire où devait t'introduire la victoire sur la mort. Tu accepteras de subir pendant cette période-là comme de courtes, on peut dire, incarnations, et cela à cause de tes disciples et à travers eux, à cause de nous. Tout cela par pure charité. Tu leur distribues ainsi et tu nous distribues à tous quelque chose de ton ministère de Fils incarné, maintenant dépassé, afin de vaincre leur incrédulité et de remédier à leur indigence spirituelle pour en faire avec nous des vivants de l'Esprit Saint. Aussi, pouvais-tu dire à Marie Madeleine, « Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Saint Jean chapitre 20, verset 17. Pour terminer, chers amis, notre étude de Saint Marc, la deuxième série, prions pour terminer. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. La mort est vaincue à jamais. Jésus a délivré l'Église. Alléluia. Elle est sauvée. Elle est en paix. Par son sang, il se l'est acquise. Alléluia. Gloire à toi, notre Rédempteur, qu'à ton saint nom, tout genou fléchisse. Alléluia. Et que la terre, ô mon Sauveur, pour t'adorer au ciel, s'unisse. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et Dieu voulant, demain, j'ai reçu dans le cœur de commencer la série concernant l'évangile de Saint Jean. À demain matin donc, Dieu voulant. Au revoir, très chers amis. Que le Seigneur vous bénisse, car il vous aime. Au revoir.